De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le secrétaire général de l'ONU demande davantage l'aide au sud-ouest de Syrie. Le gouvernement moldave se retire sur fond de tensions avec la Russie. Le secteur de la santé est une priorité pour la coopération avec l'Indonésie, a déclaré l'ambassadeur Iran. La ministre indonésienne des Affaires étrangères discute de la coopération au développement avec trois pays du Pacifique. L'ambassade d'Indonésie fait la promotion de la cuisine indonésienne lors d'une exposition à Brno en République tchèque. Chassamy nous présente maintenant le journal en complet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande plus d'accès à l'aide humanitaire au sud-ouest de la Syrie depuis la Turquie. Guterres déclare aux journalistes au siège de l'ONU à New York qu'il est maintenant temps d'explorer toutes les voies possibles pour fournir de l'aide et du personnel à toutes les zones touchées. Il a ajouté que le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, Martin Griffith, est actuellement en Turquie et se rendra en Syrie. Des voyages seront effectués le week-end pour analyser les besoins et comment l'organisme mondial peut intensifier son soutien au milieu de cette tragédie humanitaire. Griffith se rendra à Gaziantep en Turquie et à Alep et Damas en Syrie. Selon lui, il s'agit du premier convoi d'aide à traverser en Syrie. Le gouvernement moldave dirigé par le premier ministre Natalia Gavrilita vendredi s'est retiré au milieu de la crise économique et l'impact de la guerre russe sur l'Ukraine. Le président Maya Sandu accepte la démission de la Gavrilita et nomme Doran Resan à sa place. Resian est un ancien ministre de l'Intérieur devenu conseiller à la défense de Sandu et président du Conseil de sécurité de la Moldavie. Sa candidature devrait être approuvée par le Parlement. Resian dit que cela encouragera la Moldavie à rejoindre l'Union européenne et à restaurer l'économie. Selon Resian, le nouveau gouvernement donnera la priorité à trois choses, l'ordre et la discipline, l'économie et une nouvelle vie, et la paix et la stabilité. L'ambassadeur d'Iran à l'Indonésie, Mohammad Qus Haikal Azad, a déclaré que la santé et les dispositifs médicaux est une priorité pour la coopération entre l'Iran et l'Indonésie. L'ambassadeur Mohammad Qus Haikal Azad, lors du 44e anniversaire de la victoire de la République islamique d'Iran à Jakarta, a déclaré vendredi « L'Iran dispose d'autres équipements médicaux qui seront négociés et devraient être mis en offre bientôt en Indonésie. » Il a ajouté la coopération entre les deux pays en tant que membre du mouvement des non-alignés avec une politique étrangère libre et active de la pression des autres partis était très importante. Globalement, les deux pays se sont soutenus dans divers forums internationaux et sur les questions des droits de l'homme. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, M. Budi Gunadi Sadikin, qui assistait à l'événement, a déclaré que l'Iran était un partenaire extraordinaire pour l'Indonésie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a discuté de la coopération économique et du développement lors d'une réunion bilatérale qui s'est déroulée séparément avec trois représentants des pays du Pacifique, à savoir Kiribati, les îles Salomon et les Palau. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une présentation aux médias via le compte YouTube officiel du ministère indonésien des Affaires étrangères, a déclaré qu'ils ont exprimé leur haute gratitude à l'Indonésie pour la coopération et l'assistance que l'Indonésie a fournie aux pays du Pacifique. Lors de la réunion qui s'est déroulée en mars de la réunion du processus de Bali à Adelaide, l'Australie, vendredi, Retno Marsudi a souligné l'importance pour l'Indonésie d'élaborer un plan d'action de coopération au développement spécifiquement conçu avec chacun des pays du Pacifique. Selon la ministre Retno Marsudi, il apprécie également les autres efforts déployés par l'Indonésie pour le Pacifique, entre autres par le G20 où des représentants du Pacifique ont été invités. Elle a ajouté, en particulier le vice-président des Palau a également exprimé sa gratitude pour l'aide de l'Indonésie lors de la conférence Notre Océan à Palau. L'ambassade d'Indonésie fait la promotion de la cuisine indonésienne lors d'une exposition à Brno en République tchèque. L'ambassade d'Indonésie à Prague fait la promotion des produits alimentaires indonésiens lors de l'exposition gastronomique Salimatech 2023 qui se déroule à Brno, République tchèque. Salimatech est une exposition annuelle de l'industrie alimentaire et gastronomique qui se tient à Brno, République tchèque. Selon le communiqué de l'ambassade d'Indonésie à Prague vendredi, la tenue de Salimatech de cette année a été marquée par un changement dans le concept de l'exposition pour la première fois d'entreprise à consommateur pour devenir entreprise à entreprise. Le pavillon indonésien à l'exposition a été inauguré par l'ambassadrice d'Indonésie en République tchèque, Kensi Ekaningsi, avec le PDG du centre d'exposition de Brno, Thomas Moravec. À cette occasion, l'ambassadrice Kensi Ekaningsi a déclaré son engagement a continué de participer à diverses activités promotionnelles à Brno afin d'attendre les hommes d'affaires de la région de la Moravie, du Sud et de ses environs. Selon l'ambassadrice Kensi, l'ambassade d'Indonésie à Prague a profité de la participation dans l'exposition Salimatech en tant que véhicule promotionnel complet consistant en la promotion de produits, des produits indonésiens supérieurs et culinaires ainsi dans la promotion du tourisme. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Sidoarjo, Java Oriental. Des centaines de danseurs soufis ont pris part au carnaval de l'archipel qui s'est tenu sur la place de la Régence de Sidoarjo dans le cadre d'une commémoration de la naissance d'un siècle de Nahdlatul Ulama. La commémoration était centrée sur le stade Gelora Delta Sidoarjo, Java Oriental, mardi. Non seulement limité aux événements artistiques, le spectacle de danse soufi doit également battre le record de musée indonésien des records du monde. Des centaines de danseurs qui ont participé à remplir le cours de l'événement ont défilé autour de la place de Sidoarjo. Ils portaient des chemises, pantalons blancs et des casquettes hautes noires. Des centaines de danseurs qui sont apparus ont également porté le drapeau vert typique de Nahdlatul Ulama. Dans ce carnaval, participants marchant de la place de Sidoarjo à l'emplacement du point culminant de la réception centenaire Nahdlatul Ulama au stade de Gelora Delta Sidoarjo sur 2 km. Les nouvelles suivantes sont venues de Makassar, Sulawesi du Sud. La mosquée flottante Talha Ubaidillah dans la région de Bulukumba qui a été inaugurée par le gouverneur de Sulawesi du Sud, M. Andy Sudirman Sulaiman, dans le cadre d'une série de célébrations pour le 63e anniversaire de Bulukumba, est devenu une nouvelle icône dans la région. Le gouverneur du Sud de Sulawesi, lors d'une conférence de presse à Makassar lundi, a déclaré que la présence de la mosquée était une manifestation de l'attention du gouvernement régional à encourager le développement du secteur touristique à Bumi Panrita Lopi et à devenir la nouvelle icône de Tanjung Bira. Les dernières nouvelles sont venues de Malang, Java Oriental. L'étudiant en génie industriel de l'Université de Muhammadiyah Malang, Bagus Dwi Bagaskara, innove un casque intelligent avec des caractéristiques de sécurité qui devraient réduire le nombre d'accidents de la circulation. Bagus a déclaré mercredi à Malang, Java Oriental, que la principale caractéristique de ce casque intelligent était un système éclairage sans fil qui était fixé sur le côté du casque en tant que lampe de détresse. Cette lampe tire son énergie des panneaux solaires et peut être utilisée dans les 8 heures. Les panneaux solaires sont installés de manière flexible afin de ne pas laisser une impression lourde et aussi dans le but de prêter attention à l'apparence du casque. Une autre fonctionnalité intéressante est l'anti-bouée intégrée dans la visière à l'intérieur du pare-brise. Cette fonctionnalité aide l'utilisateur à éviter la condensation lorsqu'il pleut. Malgré les nombreuses fonctionnalités, le casque reste relativement léger, environ 1,5 kg, plus léger à partir de la limite maximale. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 février 1950, on a inauguré le symbole Garuda Pancasila comme symbole de la République d'Indonésie. Le symbole national de l'Indonésie est Garuda Pancasila avec la devise Bhinneka Tunggal Ika. Le symbole a la forme d'un oiseau Garuda, donc la tête tourne à droite. Sur sa poitrine se trouve un bouclier contenant l'image des cinq préceptes, à savoir l'étoile, le riz et coton, le banyan, la tête de taureau et la chaîne. Les pieds de Garuda agrippés un ruban portant la devise Bhinneka Tunggal Ika qui signifie « différent mais toujours un ». Ce symbole a été conçu par le sultan Hamid II de Pontianak qui a ensuite été perfectionné par le président Sukarno et inauguré son utilisation comme symbole d'État pour la première fois lors de la session du cabinet des États-Unis-Indonésie le 11 février 1950. En sa référence de la Constitution, il est nécessaire de déterminer le symbole d'État de la République d'Indonésie. Pour répondre à ce besoin, un comité des badges d'État a été formé le 10 janvier 1950 sous la direction du coordinateur du ministre d'État Sunder Portofolio Sultan Hamid II. Présidé par Muhammad Yamin, le comité des enseignants d'État est chargé de sélectionner les propositions de conception d'emblèmes d'État à sélectionner et à soumettre au gouvernement. Ensuite, un concours a été organisé pour fabriquer l'emblème national. À partir des résultats de la sélection effectuée par le gouvernement et le Parlement, le dessin de l'emblème de l'État par le Sultan Hamid II a été inauguré pour être utilisé lors de la réunion du cabinet de la République unie d'Indonésie le 11 février 1950. Le symbole national de l'Indonésie est le Garuda Pancasila avec la devise Bhinneka Tunggal Ika. Le symbole a la forme d'un oiseau Garuda dont la tête est tournée vers la droite. Sur sa poitrine se trouve un bouclier contenant des images des cinq préceptes, à savoir les étoiles, le coton padi, les banyans, les têtes de taureau et les chênes. Les pieds de Garuda agrippés en ruban portant la devise Bhinneka Tunggal Ika qui signifie « différent mais toujours un ». Le 11 février 2008, tentative d'assassinat sur Ramos Horta. Un groupe rebelle sous la direction du major Alfredo Reynado a mené une tentative d'assassinat contre le deuxième président du Timor-Leste, José Manuel Ramos Horta. Lors de cet incident, Ramos Horta a été blessé, tandis que Alfredo et l'un de ses hommes, qui s'appelle Leopoldino, ont été abattus par les forces de sécurité présidentielles. Ramos Horta a ensuite été soigné à l'hôpital de Royal Darwin en Australie. Le 11 février 2011, le président égyptien Hosni Moubarak a démissionné de son poste. Mohamed Hosni Moubarak a été président de l'Égypte du 14 octobre 1981 jusqu'au 11 février 2011. Il a succédé au président Anwar Sadat, assassiné le 6 octobre 1981 par des radicaux. Le quatrième président égyptien est considéré comme le dirigeant le plus puissant de la région. Hosni Moubarak a finalement démissionné le 11 février 2011 après 18 jours de manifestations populaires massives. Il a remis le pouvoir aux militaires. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Malam panjang ku lewati tanpa dia. Diam temani, entah bagaimana ku lewati hari tanpanya. Mentari pun tak bersinar terang, dan bintang pun akan hilang. Cinta pertama terasa selamanya akan ada, takkan terganti.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé L'excédent commercial de l'Indonésie avec la Suisse en 2022 a atteint 26,86 billions de roupies. L'Indonésie a enregistré un excédent commercial avec la Suisse au cours de la période de janvier jusqu'à décembre 2022, atteignant une valeur de 1,78 milliards de dollars américains ou environ 26,86 billions de roupies, comme publié par la page kemlo.go.id mardi 7 février, les performances commerciales de l'Indonésie continuent de se renforcer et affichent un excédent au cours de la période de janvier jusqu'à décembre 2022. La valeur totale des exportations de l'Indonésie au cours de la période de janvier jusqu'à décembre 2022 a atteint 2,21 milliards de dollars américains, soit environ 33,31 billions de roupies. Tandis que la valeur totale des importations indonésiennes en provenance de Suisse était de 428,63 millions million de dollars américains, soit environ 6,45 billions de roubles. Ainsi, la valeur totale de l'excédent commercial entre l'Indonésie et la Suisse était de 1,78 milliards de dollars américains, ou 26,86 billions de roubles. Sur la base des données de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, la valeur totale des exportations de l'Indonésie vers la Suisse est de 1,7 milliards de dollars américains, soit environ 25,58 billions de roubles, tandis que la valeur totale des importations en provenance de la Suisse a été enregistrée de 360,3 dollars américains, soit environ 5,42 billions de roubles. Ainsi, la valeur des exportations de l'Indonésie vers la Suisse en 2022 a augmenté d'environ 30% par rapport à la valeur de 2021, et l'excédent et l'augmentation de la valeur des exportations de l'Indonésie vers la Suisse en 2022 sont dus à l'augmentation des importations de plusieurs produits de base, notamment l'or, les métaux précieux, les bijoux et les pierres précieuses. Les 10 produits qui contribuent régulièrement à l'excédent de la balance commerciale de l'Indonésie vis-à-vis de la Suisse sont les métaux précieux et les bijoux et pierres précieuses, les chaussures, les produits textiles non tricotés, les produits textiles tricotés, l'équipement électrique, les meubles, le café, le caoutchouc, le moteur à turbine ou pièces de rechange et l'huile essentielle. L'ambassade de la République d'Indonésie à Berne a révélé que l'économie suisse était l'une des plus avancées et des plus stables par rapport aux autres pays de la région européenne. Alors que l'économie mondiale n'a pas encore complètement récupéré en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, l'économie suisse a commencé à revenir à la normale depuis 2021. Par conséquent, le commerce entre l'Indonésie et la Suisse continue d'augmenter et l'Indonésie a réussi à enregistrer un excédent commercial l'année dernière. L'ambassadeur indonésien en Suisse, Mulyaman Haddad, a estimé que cette année continuera de fournir une image positive des relations économiques des deux pays. L'une d'entre elles est l'inauguration de Indonesia Trading House en Suisse le 21 janvier. Concernant les investissements, les données du Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, pour la période de janvier jusqu'à décembre 2022 montrent que la Suisse occupe la 20e place de tous les pays d'investissement en Indonésie ou la 5e du continent européen. Selon le Conseil de coordination des investissements, le nombre de projets d'investissement suisse en Indonésie a augmenté de 292 projets en 2022, avec une valeur d'investissement de 133,77 millions de dollars américains. Chers amis, c'est à la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimilikinya, oh, sana, berikan cintamu. Kau selalu ada untukku, izinkanku untuk memilikimu. Oh, izinkanku dekat denganmu, tak ingin engkau dengannya. Ku akan, oh, menunggu, oh, sampai kau menjadi milikku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la plage de Peuyuyun, Gunung Kidul, Java Central. Gunung Kidul, qui est situé dans la province de Yogyakarta, possède un potentiel touristique incroyable. L'une d'entre elles est la plage de Peuyuyun, qui est située dans le village de Kanigoro, sous-district de Saptosari, Gunung Kidul, dans la région spéciale de Yogyakarta. L'atmosphère de la plage est toujours calme, comme si elle vous invitait à profiter de la paix. Cette plage exotique est flanquée des montagnes typiques de Gunung Kidul, cachant ainsi la plage de Peuyuyun de la foule. Du côté ouest, il y a une grotte naturelle sur une falaise qui convient au camping. La sensation de camper ici peut certainement être une expérience de vacances inoubliable. La vue sur la plage est aussi belle et magnifique, avec des pandanus autour de la plage. L'emplacement de la plage, qui est à flanc de colline, ouvrira une vue magnifique et assez apaisante. L'emplacement de la place de Peuyuyun est à environ 60 km de la ville de Yogyakarta. Depuis l'aire de stationnement des véhicules, il faut encore marcher environ 500 mètres pour arriver à la place de Peuyuyun. Pour se rendre à la place, il faut encore passer par une simple échelle en bois pour descendre une falaise d'environ 4 mètres de haut. Arrivant à la place de Peuyuyun, vous aurez droit à une étendue de sable blanc combinée à des vagues bleues et l'océan et à des feuilles de pandanus luxuriantes, rendant la place plus naturelle. Pour ceux d'entre vous qui aiment la pêche, cette place est également un lieu de prédilection pour la pêche. Pour ce d'entre vous qui aime prendre des selfies, cette zone de plage peut bien sûr afficher sa beauté et rechercher de beaux endroits pour prendre des selfies. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia. sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter l'axe philosophique de Yogyakarta proposé pour devenir le patrimoine culturel immatériel mondial. La zone de l'axe philosophique de Yogyakarta devrait entrer en septembre 2023 à l'Assemblée de l'UNESCO à Riyad en Arabie Saoudite pour décider si elle peut ou non être approuvée en tant que zone du patrimoine culturel immatériel mondial. La zone de l'axe philosophique est une ligne imaginaire de points de repère ou de zones qui relient l'ancienne Krapiak et Tugu Yogyakarta, qui traverse également Malioboro et le palais de Yogyakarta. Le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dimanche, espère que la soumission de l'axe philosophique de Yogyakarta pourrait passer la session de l'UNESCO et enrichir davantage le patrimoine culturel immatériel mondial originaire de l'Indonésie. En août 2022, une équipe d'évaluation de l'UNESCO a visité et évalué directement la zone de l'axe philosophique de Yogyakarta. L'équipe a évalué les faits trouvés sur le terrain concernant l'axe philosophique proposé en tant que patrimoine mondial dans la catégorie l'axe cosmologique de Yogyakarta et ses monuments historiques. Le directeur général de la culture du ministère de l'éducation et de la culture, Hilmar Farid, a déclaré que l'axe philosophique de Yogyakarta a été nommé et sera discuté lors de la réunion du comité du patrimoine culturel de l'UNESCO en septembre. Hilmar a ajouté que son parti avait commencé à discuter des préparatifs avant le procès. Concernant les préparatifs, le chef du bureau de la culture de Yogyakarta, Dian Lakshmi Pratiwi, a déclaré qu'actuellement, son parti est en train de préparer tous les documents liés à la soumission de l'axe philosophique de Yogyakarta en tant que patrimoine culturel de l'UNESCO qui est nécessaire lors de l'Assemblée. L'objectif est que tous les documents soient prêts en 28 février 2023 car ils doivent être envoyés immédiatement à la délégation permanente indonésienne auprès de l'UNESCO à Paris, la France. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Masih Belum Lupa, chantée par Annette Delicia Nasution, featuring Fei Fien. La chanson Masih Belum Lupa est une chanson composée par Ade Govinda, sortie le 7 avril 2022. Cette chanson a été écrite par Ade, basée sur une expérience réelle, sur les sentiments qu'il est encore très difficile d'oublier d'un cœur brisé, même si cet incident est passé. Bon, chers auditeurs, voici Annette Delicia Nasution avec Fei Fien, dont le titre est Masih Belum Lupa. Bonne écoute!
Wow,
Kau di
sekali.
Voice of Indonesia.
Betapa ku damba suatu tempat di mana ku dapat kembali pada masa kecil bahagia. Tiada permusuhan ataupun persaingan, sama-sama antara engkau dan aku. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan. Betapa ku rindu suatu tempat di mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda, doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada
of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.